Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et trois dossiers que l'on va développer en ce dimanche 19 septembre. L'espace pour tous, ils sont quatre touristes. Ils reviennent tous de 3 jours dans l'espace. Une victoire pour SpaceX, mais est-ce une victoire réelle pour les astronautes? Patrick Baudry, deuxième Français dans l'espace, sera mon invité. La politique, les Verts attendent leur candidat. Le PS est en congrès à Villeurbanne. Mais que peut faire la gauche désunie? Question que je poserai au politologue Rémi Lefebvre. Lionel Messi sur le gazon du Parc des Princes, c'est pour ce soir face à Lyon. Mbappé sera lui bien présent ce soir, c'est confirmé. Un PSG contraint de gagner, le journaliste Arnaud Ramsey nous répondra. La tendance météo, Valérie Darmon.
Maussade, Thierry, globalement, et de la pluie depuis la Normandie jusqu'en Rhône-Alpes, parfois soutenue. Une météo plus variable, entre éclaircies et nuages sur la façade ouest après la saucée d'hier, et une baisse des températures légères partout.
La météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
Mais d'abord, écoutez. Des applaudissements pour l'amérissage de la capsule Dragon dans l'océan Atlantique au large de la Floride. Un premier vol touristique de 3 jours dans l'espace et un succès complet pour la première mission privée de SpaceX d'Ibouy.
En poussant la porte de l'habitacle, les passagers sont accueillis comme des héros, toujours en combinaison sous les caméras et les flashs d'appareils photo. La capsule SpaceX est posée en douceur, en pleine mer, au large de la Floride. L'opération est un succès. Il y a 3 jours, le décollage à Cap Canaveral s'est aussi déroulé sans accroc. Ils sont allés loin, plus loin que la station spatiale internationale. Une fois en haut, les passagers en orbite ont profité de la vue au programme 15 tours du globe par jour. Elon Musk, tout sourire, s'est félicité. Cité sur Twitter, c'est la troisième fois que le milliardaire amène des humains dans l'espace. Prochain voyage en janvier 2022 avec 3 hommes d'affaires à bord.
Thibaut U avec nous en direct sur Europe 1. Patrick Baudry, bonjour.
Bonjour.
Deuxième astronaute français dans l'espace, consultant en activité aéronautique et spatiale. Patrick Baudry, est-ce que ça y est, c'est la démocratisation de l'espace qui est en marche ?
Oui, je pense. Je ne sais pas si on peut tout à fait l'appeler comme ça, mais c'est un petit peu ça, dans le sens que tout le monde peut aller dans l'espace. Ça, c'est vraiment très bien. Non, je crois que le fait le plus marquant de ça, parce que des touristes, il y en a déjà eu, qui sont partis dans l'espace, mais avec accompagnés d'astronautes confirmés.
C'est ça.
Et qui assuraient la sécurité du vol, la sécurité du vaisseau spatial.
Parce que là, le vol était entièrement automatisé, hein, faut bien le rappeler.
Voilà, c'est ce qui est remarquable dans ce vol. C'est vraiment là qu'on voit que c'est une première. Ceci étant, c'est la même capsule qui a amené l'équipage où il y avait à bord un Français la dernière fois. Et ça a été également fait entièrement en automatique. Donc, sur le fonctionnement, il n'y a pas de différence. Et je pense que, comment s'appelle-t-il, Jared Isaac est quelqu'un d'extrêmement qualifié. C'est un pilote confirmé, remarquable, hormis le fait qu'il a beaucoup d'argent. Et donc, c'était un équipage vraiment d'une certaine pointure tout de même. Il ne faut pas dévaloriser l'équipage.
C'est ça.
Ce sont des jeunes.
J'ai envie de vous demander, on se souvient tous, on a tous grandi avec vous. Vous ne vous dites pas, moi, je me suis entraîné pour aller dans l'espace. J'ai travaillé. Là, finalement, à terme, peut-être que n'importe qui pourra aller dans l'espace.
Bien, ils ont eu 6 mois de préparation, d'entraînement, ce qui n'est pas rien tout de même, et ce sont des gens d'un certain niveau. Donc on ne peut pas dire que ce sont n'importe qui.
C'est pas encore le tourisme de masse, quoi.
c'est pas encore le tourisme de masse, mais ceci dit, leur caractéristique principale, c'est qu'ils ont pu payer, et que Jared a pu payer son vol à SpaceX, c'est quand même ça, et c'est encore des vols qui sont extrêmement chers. Moi, je suis persuadé qu'on verra la décroissance du prix de ces vols, et donc des gens, être moins élitistes dans la composition des équipages qui partiront à l'avenir dans l'espace circumterrestre. On parle bien de circumterrestre pour l'instant.
Dernière question, Patrick Baudry. Il y a déjà, donc on l'a dit, un prochain vol programmé début janvier 2022 par SpaceX. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont finalement les milliardaires, le secteur privé qui ont investi l'espace. C'est plus une conquête, une bataille entre États?
Bien, les milliardaires, oui, certes, des gens très riches, d'accord, mais ceci dit, quand on voit ce que font les astronautes professionnels de nos budgets, de notre argent en allant dans l'ISS, on se dit que c'est aussi bien que ce soit des gens qui payent eux-mêmes leur voyage pour y faire finalement la même chose, hein, des mesures physiologiques, etc. Donc moi ça me réjouit, ça fait 40 ans que je dis que l'espace autour de, proche de la Terre doit être réservé à des gens qui peuvent assumer le coût de leur voyage et non pas prendre les budgets qui sont très importants. Quand on voit l'ESA et la France, et il faut quand même reconnaître, c'est un petit peu ridicule, quoi. On a subventionné un certain nombre de vols pour des astronautes français. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, à part de la com et à part une très bonne com d'ailleurs. Hein. Ça, c'est vrai qu'ils sont bons là-dedans, mais à part ça, on n'a plus rien à apprendre autour de la Terre. Il faut vraiment aller se poser sur Mars. C'est urgent.
L'astronaute français Patrick Baudry, grand merci à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Après la bataille de l'espace, les suites de la crise entre la France, l'Australie, les États-Unis également, après le torpillage de l'énorme contrat de sous-marins à Canberra, le ministre des Affaires étrangères était hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Jean-Yves Le Drian parle de mensonges et de mépris en justifiant le rappel des ambassadeurs français de ces deux pays. Écoutez.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité. Il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, il y a d'abord un aspect symbolique. C'est qu'on rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. Et puis c'est aussi, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour... défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux États-Unis.
Jean-Yves Le Drian hier soir sur France 2. Et puis on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron et Joe Biden devraient se parler dans les prochains jours. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement. Réaction ce matin de l'Australie par la voix de son Premier ministre. L'Australie qui rejette les accusations françaises de duplicité. Nous avions de profondes et graves réserves quant à la capacité du sous-marin. Et nous avions clairement indiqué que nous prendrions une décision basée sur notre intérêt stratégique national. Énorme coup dur en tout cas pour la France qui perd un contrat de 56 milliards d'euros et réaction du président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui était l'invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos.
Je crois que cette affaire est le symbole, l'énième symbole du déclassement de la France, du déclin français et de l'effacement de notre pays sur la scène internationale. C'est un fiasco économique évidemment pour la France parce qu'il y a 500 emplois qui vont être directement menacés. Mais cela fait des années que notre pays est faible parce qu'il est dirigé par des dirigeants faibles qui peinent à se faire respecter sur la scène internationale. Vous savez, le général de Gaulle disait « Nous n'avons pas d'alliés en matière de relations internationales, nous n'avons que des intérêts ». Et il est vrai qu'on a un peu trop souvent à considérer les États-Unis d'Amérique comme nos amis de cours de récréation. Or, les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on soit extrêmement naïf et qu'on ne le comprenne que trop tard, toujours trop tard.
Jordan Bardella ce matin au grand rendez-vous.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
À 12h38, va-t-on vers un allègement des restrictions sanitaires? En tout cas, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui semble le laisser penser. Interview ce matin à lire dans Le Parisien, aujourd'hui en France. En tout cas, Jean-Sébastien Soldaini, les chiffres sont très encourageants, plutôt encourageants.
Et certains sont même en train de passer au vert. Les contaminations baissent de 30% par semaine. Sur le plan des variants, là aussi, c'est rassurant. L'été n'a pas permis l'apparition d'une nouvelle forme du virus qui soit plus contagieuse. Et puis, il y a eu la rentrée scolaire, c'était il y a environ 3 semaines. Le retour des enfants en classe pouvait laisser craindre un rebond épidémique. Pour l'instant, il n'a pas lieu. Tout cela va dans le bon sens. C'est pour ça qu'Olivier Véran exprime dans Le Parisien son souhait de voir les Français respirer le plus tôt possible. Trop tôt pour relâcher les mesures, mais il évoque son plan. Ce sera progressif, allègement d'abord là où le virus circule le moins. Et cela pourrait notamment inclure la disparition du pass sanitaire. Mais attention, l'automne arrive. Il faut voir quelle sera la dynamique du virus quand nous nous retrouverons plus souvent à l'intérieur. Certains épidémiologistes redoutent une nouvelle vague car nous ne sommes pas encore au chiffre de 80% de personnes vaccinées, synonyme d'immunité collective.
Jean-Sébastien Soldaini. On ouvre une large page politique à présent. On va tout de suite aller à Villeurbanne, où se tient le congrès du PS. Son premier secrétaire, Olivier Faure, a été réélu. Il vient de s'exprimer. Jean-Luc Bougeon, vous êtes sur place pour Europe 1. Olivier Faure a voulu afficher une unité, en tout cas, on va dire une unité de façade.
Oui, effectivement, Olivier Faure a beaucoup insisté sur le rassemblement du parti. Il est même allé chercher pour poser avec lui sur la photo officielle Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, et son opposante lors de ce congrès, dont la motion a tout de même recueilli 27% des voix. Alors les militants présents ont adoré cette image d'unité, mais la réalité est sans doute plus contrastée, avec notamment Stéphane Le Foll qui continue de réclamer une autre ligne, beaucoup plus affirmée, et surtout une vraie primaire du PS. Mais pas sûr qu'il soit entendu, car Olivier Faure a vraiment ce week-end montré que c'était lui le patron, fort de ses 73% pour sa motion et aussi de la reconstruction menée depuis 3 ans.
Nous avons adopté hier le projet socialiste, le premier depuis 10 ans. Nous avons retrouvé, après 4 scrutins successifs, notre crédibilité électorale. Nous sommes redevenus la force motrice de la gauche et de l'écologie.
Alors évidemment, l'ombre d'Anne Hidalgo a également plané sur ce congrès. Elle n'a pas souhaité venir s'exprimer devant les militants, considérant que c'était le moment d'Olivier Faure et non le sien. Mais le patron du PS la soutient et, sans citer son nom, il a rendu hommage à sa dernière proposition.
Il y a quelques jours, une candidate à l'élection présidentielle a eu l'audace de proposer que les enseignants français rattrapent les salaires de leurs homologues européens. Et aussitôt que s'est-il passé, les apôtres de l'orthodoxie budgétaire se sont mis à aboyer. Et la dette, madame ? Que faites-vous de la dette, madame ?
Voilà, un hommage à Anne Hidalgo sans le dire. Le vote, donc, pour désigner le candidat officiel des socialistes aura lieu le 14 octobre prochain. Mais tout le monde ici pensait à Anne Hidalgo, une absente finalement très présente ici à Villeurbanne.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc Boujon, correspondant Europe 1 dans le Rhône. On va plus loin avec vous, Rémi Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Merci d'être sur Europe 1 ce midi. C'est maintenant, finalement, que les ennuis commencent. Peut-être au PS, un vote interne, on vient de le dire, le 14 octobre, pour départager Stéphane Le Foll et Anne Hidalgo. C'est pas l'entente cordiale entre les deux, hein ?
Non, mais écoutez, je suis pas sûr que les difficultés commencent vraiment parce que il y a pas vraiment de suspense sur ce vote. Stéphane Le Foll était signataire de la motion qui était concurrente de celle de l'actuel secrétaire Olivier Faure et il a aucune possibilité de gagner face à Anne Hidalgo. Donc le parti va être largement derrière Anne Hidalgo. La question c'est de savoir si le parti est vraiment enthousiaste derrière elle. Alors ça c'est une autre affaire et c'est une campagne difficile qui s'ouvre pour Anne Hidalgo parce que ce démarrage de campagne se fait sans grand enthousiasme ni dans l'électorat de gauche ni dans les rangs même du PS.
Il y a toujours la question des idées du contenu finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut incarner le PS entre les Verts et puis on va dire entre le centre droit?
Difficile effectivement ce positionnement. Le PS essaie de retrouver une place centrale et modérée, c'est-à-dire qu'il est écologiste mais pas trop il est de gauche mais pas trop, hein. C'est-à-dire que moins à gauche sans doute et moins radical que Jean-Luc Mélenchon, et il prétend, à la différence des écologistes, porter une offre politique qui à la fois intègre l'écologie, mais qui est plus acceptable et qui est centré sur la justice sociale. Donc Olivier Faure vient de dire dans son discours, et vous l'avez donné à entendre, que le PS était la force motrice de la gauche. Voilà, c'est un discours, un positionnement qui est encore assez flou, plus modéré que Mélenchon, écolo-responsable, à la différence des écolos qui sont quand même encore accusés de n'être qu'écologistes. Voilà, l'espace politique du PS et sa crédibilité restent encore contestables.
Rémi Lefebvre, vous en parliez à l'instant, c'est en fin d'après-midi que nous devrions connaître le résultat de la primaire chez les Verts, donc le candidat des Verts. Il y a de l'espace à gauche finalement pour autant de candidatures ?
Pas du tout. Non, c'est une forme de suicide politique hein, qui se lance. Il y a 5 candidats et le potentiel électoral de la gauche est historiquement bas à 25%. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est en train de s'engager, c'est une primaire par les sondages, faute de primaire de toute la gauche. Et donc aujourd'hui, il y a 5 candidats qui ont des petits segments électoraux, pas du tout de nature à les amener à une qualification pour le second tour. Comme personne ne se détache, tout le monde est candidat. Et ce qu'on peut espérer, mais pour la gauche, mais c'est pas sûr du tout, c'est que les électeurs décantent en fait cette situation d'éclatement, hein, faute de primaire, je le répète. Mais aujourd'hui, effectivement, collectivement, cette attitude est suicidaire. La gauche n'a aucune chance à ce stade, même s'il va évidemment se passer beaucoup de choses encore, on n'est même pas encore dans la campagne, pour au moins passer le cap du premier tour de l'élection présidentielle.
Merci à vous pour votre éclairage, Rémi Lefebvre, politologue et spécialiste de la gauche. Grand merci.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
1h moins le quart sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 13h. On va parler du PSG qui joue et qui joue gros ce soir au Parc. Mais d'abord, cette question angoissante. Y aura-t-il des jouets à Noël? Les magasins sont victimes, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, du manque de matières premières. Il pourrait donc y avoir des ruptures de stock chez le Père Noël cette année, Carole Ferry.
C'est en ce moment que les commandes devraient arriver dans les entrepôts pour être distribuées à temps dans les magasins. Mais un énorme grain de sable grippe la logistique cette année. Les usines chinoises n'ont pas pu produire autant que prévu. À cela s'ajoute la pénurie de containers, la fermeture de ports asiatiques. Résultat, les grandes chaînes de magasins de jouets craignent de ne pas être prêtes pour la sortie des catalogues mi-octobre, comme l'explique Philippe Guédon, président de King Jouets.
On nous dit que tout ne peut pas être livré ou que tout ne peut pas être livré immédiatement. On nous parle de retard de 15 jours, 1 mois, 2 mois. On sera livré partiellement ou en tout cas pas sur les délais qui avaient été initialement convenus.
Alors cela concerne essentiellement bien sûr les produits qui viennent d'Asie, potentiellement une bonne nouvelle pour nos fabricants français. Sauf qu'aujourd'hui, quasiment aucune marque n'est totalement épargnée selon le président de l'Association des jouets français. Alain Hinberg.
Ils ont des petits problèmes, ils en ont moins, mais ils ont des problèmes. Un jouet qui n'a pas d'électronique n'a pas besoin de la Chine. Dès que vous avez une puce électronique ou un moteur ou quelque chose, c'est importé. Donc si c'est importé, ça pose un problème.
Des difficultés d'approvisionnement qui touchent donc quasiment tout le monde et qui devraient forcément se répercuter au final sur les prix.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. On passe au sport à présent avec l'un des premiers chocs de la saison en Ligue 1 de foot. Le PSG reçoit ce soir Lyon, les Parisiens tenus en échec à Bruges cette semaine et qui auront à cœur de faire mieux pour la première de Messi au Parc des Princes. Et tout cela, bien sûr, avec Kylian Mbappé qui sera bien ce soir dans le groupe des 22 joueurs retenus. On en parle avec vous, Arnaud Ramsey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportif, auteur de 11 légendes du PSG chez l'éditeur Solar. Donc c'est la première de Lionel Messi ce soir au Parc. Est-ce qu'il fait entrer le club parisien dans une autre dimension ?
Oui, on l'a bien vu lors de sa présentation spectaculaire. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est devenu une marque globale, un produit à l'international. Mais c'est encore mieux quand il y a des résultats. Maintenant, on a vu l'attraction Messi. On a vu des petits bouts sur le terrain, parce que c'est quand même un joueur merveilleux, davantage sur le terrain qu'en dehors de la pelouse. On a vu des bouts à Reims, vous l'avez dit, à Bruges. Et c'est la grande première au Parc des Princes, donc on attend de Messi qu'il fasse ce spectacle et qu'il marque un but et qu'il fasse décoller ce premier vrai choc du championnat de France entre le club phare des années 2000, du début des années 2000, Lyon, et le PSG qui, depuis que les Qataris ont racheté le club en 2011, a vraiment changé de dimension et encore plus avec Messi.
Arnaud Ramsey, vous l'avez dit, il faut maintenant des résultats. Est-ce qu'avec cet effectif du jamais vu en France, Di Maria, Mbappé, Messi, le PSG est finalement condamné à tout gagner?
Oui, c'est des problèmes de riches, hein. Et vous avez c'est même vrai. Pas cité Neymar, qui est quand même venu pour 217 millions d'euros. Donc, c'est un peu le problème de l'accumulation de biens ne nuit pas. Après, c'est un cliché de dire, mais c'est une réalité. Il faut savoir jouer aussi en équipe. Donc, Messi, son talent, c'est qu'il sait aussi faire briller les autres. Est-ce que Mbappé, Neymar voudront, sachant plus que Neymar a longtemps joué avec Messi à Barcelone, donc ils ont des automatismes tous les deux. Mais vous avez ajouté Di Maria, qui est l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du championnat de France. Et ça donne tout pour du bon spectacle. Donc, ouais. On a envie, et puis c'est normal que le PSG, quand on recrute Messi, on est obligé presque de tout gagner. Pour l'instant, en championnat, le PSG le survole. 5 matchs, 5 victoires. Ouais. Mais c'est vrai que vous l'avez rappelé, le match cette semaine à Bruges a été un léger coup d'arrêt. Ce n'est pas définitif du tout, parce que c'est une poule. Mais c'est une petite déception que le PSG n'arrive pas à s'imposer en Belgique.
On le racontait ce matin sur Europe 1, les supporters ont obtenu le retour de la musique de Phil Collins pour l'entrée des joueurs. les supporters, finalement, est-ce qu'ils ont encore une influence ?
Ben la preuve, en fait, là, je pense que c'était plus une incompréhension, parce que Dizzy Snake lui-même a reconnu que ce morceau n'était pas forcément propre à l'entrée. Après, est-ce qu'une histoire d'un club doit évoluer? Moi, j'ai connu une époque où on s'attendait à ce que le joueur soit né ou soit issu de la région pour jouer dans ce club-là. Il y a très peu de joueurs français au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que ça en fait pas un grand club? Je pense que si. Donc, le supporter, ce n'est pas quelqu'un qui paye sa place. Il a envie de vibrer. Et je pense qu'il est ravi de voir Messi, Neymar, Mbappé comme avant, de voir Ibrahimovic et d'autres. Donc, effectivement, il y avait une poussée spectaculaire pour le retour de Phil Collins, c'est-à-dire presque le son historique depuis 1992. Oui. Après, ce n'est pas ça qui façonne l'histoire du club, mais c'est vrai que c'était un peu maladroit du PSG. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une marque mondiale. C'est aussi, vu le prix des billets, vu le prix des maillots, il faut amortir, il faut vendre. Et tout est fait pour en faire un spectacle global. Je pense qu'un touriste étranger, quand il va à Paris quelques jours, bah, il peut aller à l'Opéra, il peut aller voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, peut-être avec Christophe, mais aussi voir un match au parc. C'est ce que veut le Paris Saint-Germain, hein. Il ne s'en cache pas.
Merci à vous Arnaud Ramsey, journaliste sportif. Match à suivre en intégralité sur Europe 1 ce soir avec toute l'équipe de Lionel Rosso. À retenir hier, un derby du Nord mouvementé après des affrontements entre supporters. Lens a battu Lille 1-0. Et puis Bordeaux a signé hier soir sa première victoire de la saison à Saint-Etienne, 2-1. On va terminer ce journal avec un coup de chapeau, un vrai coup de chapeau. Vous le savez, la phase de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris est terminée. La rénovation va pouvoir donc débuter. En ce dimanche des Journées du patrimoine encore, on va rendre hommage aux métiers qui ont participé à ce travail délicat qui a consisté à faire tenir solidement sur ses pieds l'édifice qui avait pris feu il y a maintenant 29 mois. Reportage signé Nicolas Fellman.
C'est la première fois que tu fais ça?
Oui.
T'as pas peur?
Si, un peu.
Un peu quand même, hein.
Face au vide, le pas du petit Gilbert, 11 ans, est un peu hésitant. Perché sur un échafaudage à 6 mètres de haut, harnaché, casque sur la tête, il découvre le métier de cordiste.
Tu veux être cordiste, toi?
Bah, je sais même pas c'est quoi le métier, en fait.
Alors nous, le métier de cordiste, tu vois, c'est on est suspendu sur une corde et on va dans les endroits où c'est pas accessible pour tout le monde.
Ce qu'on va te demander de faire, c'est de t'asseoir dans la sellette. Ouais. Et c'est parti.
Youhou! Alors, c'est comment?
Bien.
Lui, il est à l'aise. Ah, c'est un futur de chez nous.
Sur le parvis, tous ces professionnels de l'ombre accueillent le public. Tous les corps de métier engagés dans la restauration de Notre-Dame sont représentés. Charpentier, architecte, échafaudeur. Jérémy Patrier-Létus est à l'origine de ce village des métiers. Il est directeur culturel de l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale.
C'est des métiers qui sont souvent méconnus, qui manquent de bras. Aujourd'hui, on manque énormément de charpentiers, par exemple. Et donc, si on peut profiter de la visibilité de ce chantier pour convaincre les jeunes de s'engager dans ces métiers qui sont passionnants, on aura réussi notre mission.
Et le directeur de raconter l'histoire de Tristan, un jeune fasciné par un reportage sur la sécurisation de Notre-Dame. Depuis devenu cordiste, il vient d'achever une mission de 10 mois sur le chantier de la cathédrale.
Nicolas Fellman, cathédrale de Paris, qui devrait donc rouvrir au public et aux messes en avril 2024. Et comme tous les dimanches midi, on accueille Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry.
Tout à l'heure dans La Voix et Livre, vous recevrez Nina Bouraoui pour son nouveau roman.
On l'avait quitté avec otage, vous vous souvenez, l'histoire d'une femme qui lâche tout et qui casse tout et qui prend même son patron en otage. Elle revient avec satisfaction chez Lattès. Cette fois, on est dans l'Algérie des années 70. Madame Akli, c'est l'héroïne, est française, mais elle a suivi Brahim en Algérie. Ils ont un fils, Erwan. Mais quand on la rencontre, cette Madame Akli, ça ne va pas du tout. On le sait parce qu'on lit ses carnets, des fragments de vie qu'elle note, et dès le début, on lit ceci. « Je me suis trompé de vie ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tromper de vie? Réponse de Nina Bouraoui.
À en avoir conscience, c'est compliqué.
C'est triste,
parce que satisfaction est l'histoire non seulement d'une folie, mais d'une résignation. Madame Akli a renoncé à ses projets, à sa liberté. Elle, j'ai voulu rendre hommage à ces femmes françaises qui ont rencontré des hommes algériens en France pendant la guerre d'Algérie et qui ne sont pas, elles, rentrées au pays, mais entrées dans un nouveau pays avec leur mari, et là, Alger, avec un idéal politique, reconstruire un pays, et puis un idéal amoureux, tout d'un coup, avoir épousé un étranger, qu'est-ce que ça veut dire, quelle dimension ça donne. Et puis finalement, Madame Akli, vers la fin des années 70, n'aime plus Brahim, n'a plus de désir pour son mari et va s'en inventer d'autres, des désirs assez violents. Et ces carnets sont aussi les fantasmes de ces désirs-là.
Nicolas, elle s'en sort comment alors ?
Bah, pas terrible pour l'instant. Elle se raccroche à son fils, elle est même un peu étouffante avec lui. Et puis un jour, elle se sent suivie. Un type dans la rue, et quand elle prend sa voiture, elle voit qu'il est derrière. Il la dépasse même très lentement en la regardant. Il est là aussi quand elle est sur la plage avec son fils, elle a très peur. Mais tout à coup, on se demande si elle n'est pas en pleine paranoïa, si même le type existe bien, Nina Bouraoui.
Un pays qui sort de la guerre est un pays qui a injecté dans chacun de ses habitants de la paranoïa. Chacun se sentait suivi. Il y avait des raisons parfois de se sentir suivi, parce qu'à la fin des années 70, en effet, des sortes de milices ont commencé à se créer et on a commencé à espionner les habitants chez eux et souvent les couples mixtes, parce qu'on se demandait pourquoi ces Algériens avaient épousé des Françaises. Est-ce que ces Françaises ne jouaient pas une sorte de double jeu de trahison? Est-ce qu'il n'y avait pas des espions?
Finalement, Nicolas, elle n'est peut-être pas aussi paranoïaque que ça.
Peut-être pas, vous verrez, mais en tout cas, elle est amère, Madame Akli, et donc elle a de mauvaises pensées. Elle est jalouse de tout, y compris d'une copine de l'école de son fils, et surtout de Catherine, une femme très libre, son antithèse. C'est un roman très délicatement violent, un portrait de femme, mais aussi un portrait d'une époque et d'un pays, l'Algérie des années 70.
Ça a l'air passionnant. Nina Bouraoui, donc, Satisfaction quand l'on retrouve à 14h dans votre émission La Voix est Livre. Merci Nicolas.
Merci Thierry.
À tout à l'heure. Eh bien, il nous reste à voir la météo. Valérie Darmon, on ne sort pas sans son parapluie aujourd'hui. Hein.
Effectivement, surtout à partir de maintenant. Et si vous habitez de la Normandie et du sud du bassin parisien à la Bourgogne, Franche-Comté, nord de l'Auvergne et en Rhône-Alpes, où il va pleuvoir une grande partie de la journée, les pluies sont bien soutenues par endroits. Du sud Bretagne au Pays Basque, le ciel reste encombré aussi et les averses fréquentes. De l'Aquitaine au sud du Massif central, localement orageuse d'ailleurs en bord de mer. La Tramontagne et le vent d'ouest en PACA dégagent votre ciel, mais souffle assez fort entre 60 et 80 km/h. Les températures se dirigent mollement vers l'automne, avec 15 annoncés à Aurillac aux heures les plus chaudes de l'après-midi, 16 à Rodez, 17 à Bourg-en-Bresse, 18 à Montluçon, 19 à Gap, 20 à Orléans, 21 à Valence, 22 à Rouen, 23 à Paris et Lille, 25 à Nîmes et enfin 29 à Nice.
Merci Valérie Darmon. Dans quelques minutes, Isabelle Morizet reçoit le styliste Jean-Charles de Cassel-Bajac et puis on fera juste un avant un point sur l'actu. À tout de suite sur Europe 1.